France Inter, le 13-14.
Après la découverte de ce qui a toutes les apparences de crimes de guerre à Boutcha en Ukraine, le régime russe est un peu plus en accusation. La Russie dément formellement toute exaction et accuse l'Ukraine de mise en scène. Mais qui parle au nom de la Russie à part Poutine? En fin de semaine dernière, le chef des renseignements britanniques affirmait que les subordonnés de Poutine n'osent plus lui décrire la réalité en Ukraine. Comment parler à un dictateur? C'est le vif de l'histoire aujourd'hui, Jean Lebrun. Le grand écrivain albanais Ismaël Kadare consacre un livre entier à une conversation entre Staline et un autre écrivain qui remonte à juin 34.
Oui, Kadare sait d'expérience qu'un dictateur, c'est radioactif. Celui de son pays, Enver Hoxha, avait ajouté au stalinisme le maoïsme. Et un jour, il a appelé Kadare au téléphone, pour le féliciter d'ailleurs. Et le jeune écrivain ne sut qu'enchaîner les « merci, merci ». Alors ici, il s'attarde sur une conversation au sommet entre Staline et Boris Pasternak, admirable aux yeux de Kadare, ne serait-ce que pour avoir reçu le prix Nobel de littérature qui lui a échappé à lui, Kadare.
Alors, dispute au sommet, titre l'ouvrage, mais la conversation n'a duré au maximum que le temps de votre chronique et au téléphone.
Oui, mais Kadare en a recensé 13 versions différentes fournies par les témoins ou par les historiens. Alors, d'un côté, il y a le Kremlin, forteresse intangible. Staline fait appeler par son secrétaire. Allô, camarade Pasternak, le camarade Staline veut vous parler. Alors, à l'autre bout du fil, Pasternak se tient dans son appartement communautaire, que se partagent plusieurs familles. Alors, est-il seul dans le couloir quand il décroche, ou entouré par les voisins, attiré par la sonnerie? Les versions varient sur ce point, comme sur l'attitude de Pasternak. Sa femme dira qu'il a gardé son sang-froid, et sa maîtresse qu'il est resté sidéré quand Staline, avec sa voix fruste, son accent géorgien, l'a d'emblée tutoyé.
Et l'objet du coup de téléphone, c'était un autre géant des lettres, Ossip Mandelstam.
Oui, camarade, attaque de suite Staline, tu sais que Mandelstam a été arrêté. Pasternak aurait préféré que le dictateur lui parle d'autre chose. Oui, Mandelstam avait fait circuler à l'automne 1933 une épigramme sur, je cite, « le montagnard du Kremlin » dont Frédéric Pommier va vous lire quelques amabilités.
Ces mots de plomb tombent de ses lèvres. Lui seul tempête et désigne comme des fers à cheval. Il a forgé des décrets.
Bon, Mandelstam a pu écrire des choses plus fortes, mais pas plus courageuses. Le dictateur a envoyé aussitôt sa police se saisir de la personne et des papiers du poète. Alors, Pasternak, au téléphone, aurait pu hasarder devant Staline. On n'arrête pas ainsi un grand écrivain, camarade Staline. Mais ce sont d'autres mots qui lui viennent. Oh, vous savez, camarade Staline, Mandelstam et moi, nous sommes poètes, mais nous appartenons à deux écoles distinctes. Nous sommes différents, camarade. Et aussitôt, Staline aurait mis fin à la conversation sur le mode de la raillerie, voire du mépris. Camarade Pasternak, quand nos amis bolcheviques étaient en difficulté, nous les défendions mieux.
Bon, peut-être s'est-il dit davantage de choses. En tout cas, Staline, ce mois de juin 1934, a consenti à atténuer la condamnation de Mandelstam.
En effet, Mandelstam sera seulement relégué et sa femme, Nadejda, sera autorisée à l'accompagner. Le sort de Pasternak sera autrement enviable. Pourquoi? Après le coup de fil, en tout cas, il va bénéficier d'un appartement plus grand, puis d'une datcha à Peredelkino, le village des écrivains les mieux dotés. Mandelstam, lui, éloigné à des milliers de kilomètres, sera d'ailleurs expédié peu après 1938 au goulag extrême de la Colima qu'il ne pourra pas rejoindre. Il mourra en route en décembre 38.
Alors, cela dit, les interprétations qui demeurent diverses de ce fameux entretien de 1934 témoignent qu'on veut croire à une marge de manœuvre que garderaient ses interlocuteurs face au dictateur.
Oui, parce que Staline n'attendait-il pas que Pasternak lui tende une perche avant de poser un geste faussement généreux? Après tout, dans la tradition monarchique, le souverain avait pardonné à Pouchkine et dans la tradition bolchevique, Lénine avait tout passé à Gorki. Pasternak, plus tard, interviendra pour Anna Akhmatova et son fils, et beaucoup plus tard, 1956, il va remettre courageusement à l'étranger le manuscrit du docteur Jivago, son histoire personnelle, des années 1905-1940. « C'est mon arrêt de mort », dira-t-il. Et en effet, le Nobel de littérature, survenant dans la foulée, Pasternak ne trouvera plus jamais la tranquillité. Une grande campagne sera déclenchée contre lui, à laquelle assistera le jeune Ismaël Kadare, qui faisant alors ses études en Russie, en restera marqué à jamais. Khrouchtchev, numéro un soviétique de l'époque, applaudira les camarades zélés qui présenteront Pasternak, je cite, « comme un porc, un gras, qui ne chie pas où il a mangé ». Les dirigeants du Kremlin aiment bien buter leurs adversaires dans les chiottes.
Ismaël Kadaré dispute au sommet chez Fayard. Voilà une des bases de votre chronique, le vif de l'histoire de ce jour.